Voilà, ça fait chaud au cœur d'être avec vous ce matin, de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence, de vadrouille par Mont et par Vaud. Et je suis particulièrement content de me retrouver ce matin dans mon assemblée. Alors avant de vous en dire plus sur le thème du message de ce matin, je vous propose d'avoir un court temps de prière. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Et je vous propose de... Alors, le message que je vais vous donner ne concernera pas les mamans ce jour. Ce sera de manière plus large, beaucoup plus générale. Mais j'aimerais que nous puissions prendre un court temps de prière, d'intercession pour toutes celles qui sont mamans. Et puis pour toutes celles aussi qui sont des femmes, des épouses, de manière plus large. Parce que, alors c'est certain que la fête des mères, ben, nous célébrons, nous mettons à l'honneur celles qui ont donné la vie, celles à qui nous tenons, mais de manière plus large, nous voulons aussi prier ce matin pour toutes les femmes, et je vais demander à toutes celles qui sont mères de bien vouloir se lever, simplement, levez-vous à votre place, et puis je vais demander aussi aux femmes, de manière générale, voilà, si elles le souhaitent, même si vous n'êtes pas maman, de vous lever. Et j'aimerais prier pour vous ce matin, tout simplement. Alors c'est moi qui prie, mais je prie au nom de l'Assemblée. Nous voulons vous honorer aussi, vous dire que Dieu vous aime, vous le savez, mais que nous aussi nous vous aimons et nous voulons prier pour vous particulièrement ce jour. Seigneur, j'aimerais te remettre toutes les mamans qui sont debout, présentes ici, mais de manière plus large aussi, Seigneur, toutes les épouses, toutes les femmes qui sont là, toutes celles aussi qui sont appelées à devenir mères un jour. Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi qui les as créées, comme nous l'avons chanté ce matin. C'est toi qui, de toute éternité, les avais prévues. C'est toi aussi, Seigneur, qui les a appelées à t'aimer, à te connaître, à se rapprocher de toi. Et je te remercie, Seigneur, parce que ce matin, je sais que tu poses ta main sur elles. J'aimerais te prier pour que tu puisses remplir leur cœur d'un amour nouveau, profond, de faire quelque chose de neuf dans leur cœur. J'aimerais te prier aussi pour celles qui sont dans la souffrance, celles qui vivent un peu la détresse, celles, Seigneur, qui sont attristées, qui vivent des situations difficiles, peut-être avec leurs enfants, dans leur famille. J'aimerais te demander que tu viennes consoler leur cœur, que tu viennes apaiser les cœurs. J'aimerais également te prier, Seigneur Dieu, pour que tu puisses les fortifier, leur donner des forces nouvelles pour pouvoir t'aimer, pour pouvoir te servir, que tu leur donnes aussi tout ce dont elles ont besoin, que ce potentiel qui est en eux puisse continuer d'être libéré, Seigneur, pour être une bénédiction au sein de leur famille et au-delà, Seigneur. Ce matin, c'est en ton nom, Seigneur, que nous les bénissons. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis. Alors, c'est aussi pour les hommes, mais bon, de temps en temps, c'est bien de se focaliser aussi sur toutes celles qui sont mamans et qui, tout au long de l'année, se donnent sans compter, qui font tout ce qu'elles peuvent, et au-delà. Alors, vous le savez, actuellement, dans notre Église, nous sommes dans une période de réflexion, nous sommes dans une période de prière aussi, parce que nous avons un problème. Et nous avons un bon problème. Le problème que nous avons, entre autres, c'est que nous grandissons, nous nous développons, et nous avons besoin, entre autres, de renforcer l'équipe ou les équipes existantes. Nous avons besoin de trouver de nouveaux leaders. Et jusqu'à présent, pour nous aider, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en place des réunions de prière. Et dans ces temps de prière, nous demandons à Dieu un petit peu sa pensée, sa direction. Nous lui demandons tout simplement de nous guider, de nous diriger pour savoir où aller, comment continuer, qui choisir. Parce que l'Église grandit, l'Église se développe et par conséquent, on a besoin aussi de pouvoir renouveler tout ce qu'on appelle le leadership. Alors ce matin, je me propose d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice et en réfléchissant à ce message, à ce que je pourrais dire, je me suis dit, tiens, ça serait bien peut-être de faire un enseignement ou de proposer un début d'enseignement sur toute la question du leadership et aussi de savoir comment faire pour choisir un leader Ou pour être même plus précis que cela, quelles sont les caractéristiques d'un leader chrétien? C'est un sujet que je me sens tout à fait libre de traiter avec vous, d'une part parce que c'est quelque chose qui me parle ces derniers temps, et puis aussi parce que je n'ai pas d'aspiration spécifique, je n'ai pas de revendication, autrement dit, je ne suis pas en campagne, donc par conséquent, je me sens libre d'en parler et de dire ce que j'ai à cœur un petit peu par rapport à ce sujet. Alors j'ai intitulé mon message « Trois critères » ou « Les trois critères pour un leader ». Bien sûr, trois critères, la liste n'est pas exhaustive. En réalité, il y aurait plein de choses à dire sur le sujet. Je me propose plutôt ce matin de commencer à poser quelques jalons sur notre sujet. Et puis si l'occasion se prête, on continuera d'aborder cette thématique qui du reste est passionnante, très intéressante et qui aussi d'une certaine manière nous concerne tous. Parce que comme le dit mon collègue le pasteur Patrice Martorano, à notre niveau nous sommes tous des leaders puisque nous exerçons tous, comme nous le verrons dans quelques instants, une influence sur les autres. Alors je ne vais pas lire de passage de l'Écriture pour nous conduire dans cette réflexion. Je citerai néanmoins, bien sûr, rassurez-vous, des textes de l'Écriture. Je vous propose plutôt de poser quelques jalons, d'avoir en quelque sorte une partie introductive sur notre sujet, et puis de traiter cela de façon plutôt thématique. Avant de voir quels sont ces critères, je vous propose d'abord, dans un premier temps, de réfléchir à cette question, tout simplement de nous poser déjà dans un premier temps cette question, mais qu'est-ce qu'un leader ? Qu'est-ce que nous entendons par ce terme de leader ? Alors c'est un terme dans le milieu chrétien, vous en avez qui parlent tout le temps des leaders, du leadership, il y en a, ils ont tout le temps ce mot à la bouche, à tel point qu'on ne sait même plus qu'est-ce qu'ils veulent dire ou qu'est-ce qu'ils entendent par cela. Et puis à l'inverse, vous avez aussi certains milieux chrétiens aujourd'hui qui sont un petit peu réfractaires à tout ça. Et qui, en opposition, n'aime pas du tout qu'on utilise ce mot-là. C'est un mot qui parfois a mauvaise presse, voire même qui fait peur à certains. Alors quand vous parlez de leader ou de leadership, certains voient derrière cela un patron, un chef, un dirigeant, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui va imposer sa volonté. D'autres pensent qu'à partir du moment où vous avez un titre, pasteur, diacre, enseignant, évangéliste, responsable de ceci ou de cela, eh bien aussi vous êtes un leader puisque vous avez le titre qui va avec. Et puis selon d'autres encore, eh bien nous ne devrions pas parler de leader, mais nous devrions plutôt parler de serviteur. Et donc ils vont avoir tendance à opposer leader et serviteur. Et puis vous en avez d'autres encore qui pensent que être leader, c'est réservé à une élite. C'est un don, c'est quelque chose qui est inné. Et puis il y a ceux qui sont en position de leadership, qui ont un don, et puis il y a les autres qui vont tout simplement suivre. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, ou qu'est-ce qu'il conviendrait de mettre derrière ce terme de leader? Selon John Maxwell, qui est un chrétien et un spécialiste reconnu au niveau mondial en ce qui concerne le leadership, aussi bien dans le monde chrétien que dans le monde séculier, qui est vraiment un des grands spécialistes de la question au niveau mondial, qui est un homme aussi qui explique les choses de manière très simple, il dit ceci, un leader c'est une personne qui a développé suffisamment son don pour que son entourage proche et lointain en soi le bénéficiaire. Alors j'aime beaucoup cette définition, je la cite à nouveau. Un leader, c'est une personne qui a développé suffisamment son don pour que son entourage proche et ou lointain en soit bénéficiaire. Donc ça veut dire que quelque part, nous sommes tous en position, ou nous pourrions tous être en position de leadership. Puisqu'il suffit dans un premier temps déjà d'identifier quels sont son ou ses dons, et puis ensuite de les développer, et de les développer à un niveau où les autres vont pouvoir en bénéficier. Par exemple, si vous avez un don d'évangéliste, ou si vous êtes évangéliste, eh bien, que vous développez votre don, vous allez amener des personnes au Christ, et vous allez permettre aussi à ce que d'autres personnes, des chrétiens, vont apprendre comment faire et vont pouvoir être encouragés, par exemple, dans leur témoignage personnel. Si vous avez un don pour enseigner, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les personnes vont être encouragées. Elles vont être édifiées, elles vont repartir avec le sentiment qu'elles ont reçu quelque chose de bon. Comme quand vous avez pris un bon repas, ça va pouvoir les aider. Et elles vont être édifiées dans leur vie personnelle et par conséquent, elles vont pouvoir aussi d'une certaine manière retransmettre aux autres, rayonner autour d'elles par rapport à ce qu'elles-mêmes ont digéré et ont reçu. Et puis si vous avez un don pour écouter ou conseiller, les personnes que vous conseillez vont se sentir acceptées. Elles vont se sentir aimées, ça va les aider à avancer dans leur vie. On retiendra simplement cette idée que le leader, c'est quelqu'un qui va exercer une influence sur les autres au travers de son ou de ses dons. Et Maxwell dit aussi que la mesure d'un leader, c'est son influence. C'est la capacité qu'il a de délivrer un message, alors un message quelconque, hein, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine séculier, pour faire passer ses idées, et de donner envie aux autres de se mettre en action. C'est quelqu'un qui va inspirer. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui a un titre. Je crois que c'est bien d'insister là-dessus, surtout dans notre contexte français. Vous pouvez être patron, chef d'une organisation, homme politique, responsable d'une activité, pasteur, ancien évangéliste, quelqu'un de visible, quelqu'un de connu, quelqu'un même de riche, quelqu'un qui a une notoriété, et à côté de ça, vous pouvez ne pas avoir d'influence ou très peu. Et mettre finalement très peu de personnes en mouvement. Et nous connaissons tous dans notre entourage, peut-être c'est le cas au travail, hein, le chef, le patron qui est là, et finalement qui exerce peu d'influence. Il donne simplement ses ordres, et puis vous allez tout simplement vous exécuter. Alors c'est une manière de vivre le leadership, hein, c'est une manière de comprendre les choses. C'est quelque chose qui est très français, même si ça change pas mal depuis un certain temps. L'idée qu'on va retenir ici, c'est que le leader, c'est quelqu'un qui exerce une influence sur les autres. Et puis, j'ai oublié de préciser aussi quelque chose. À l'inverse, vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a aucun titre, qui n'est pas reconnu de manière officielle, mais qui, au travers de son influence, va réussir à mettre les autres en action. Les gens vont se bouger, tout simplement, parce que c'est quelque chose qui se dégage de sa personne. Et donc, c'est pas lié à un diplôme, c'est pas lié à une reconnaissance même, et c'est pas lié non plus à un titre. C'est quelque chose qui va se manifester tout simplement au travers de la personne. Et le meilleur exemple, celui que nous citons souvent, c'est l'exemple de Jésus. Regardez un petit peu l'influence que Jésus a eue. C'est impressionnant. Il n'a eu que 3 ans de ministère, et on pourrait se dire 3 ans de ministère, mais c'est rien du tout, quoi. C'est pratiquement rien. 3 ans de ministère, et il a eu une influence extraordinaire. Puisqu'il a réussi à sélectionner 12 apôtres, il les a équipés, il les a envoyés, ces personnes, à leur tour, ont eu une influence sur d'autres, les autres ont eu une influence sur d'autres, et aujourd'hui, 2000 ans après, l'évangile est répandu dans le monde entier et tout le monde reconnaît dans la personne de Jésus un homme d'influence. Aussi bien ceux qui sont chrétiens que ceux qui n'ont pas la foi. Tout le monde dit que Jésus était par exemple un communicant hors pair et que c'était un influenceur de première. C'était quelque chose qui se dégageait de sa personne, c'est le leader par excellence. Alors nous retiendrons cette pensée, à savoir qu'un leader est une personne qui a développé suffisamment ses dons pour permettre aux autres d'en bénéficier. Ce qui veut dire que potentiellement, nous sommes tous en capacité d'exercer un certain leadership auprès d'autres personnes. Et que de toute façon, nous exerçons une certaine forme d'influence, ne serait-ce que dans notre foyer déjà. Une maman, quand elle prend du temps pour éduquer ses enfants, et un père aussi, pour transmettre des valeurs, pour prier avec eux, pour leur donner plein de choses, vous exercez une influence sur les autres. Une influence qui peut être négative ou qui va être positive. Bien sûr, le leader, lui, cherchera à avoir une influence qui va être positive sur les autres. C'est-à-dire révéler ce qu'il y a le meilleur dans la vie d'une personne pour lui permettre à elle-même de pouvoir trouver ses dons et de rentrer pleinement dans l'appel que Dieu a prévu pour cette personne-là. Voilà un petit peu comment est-ce que je vous propose dans un premier temps ce matin de percevoir ce que nous entendons au travers de ce terme de leader. On retiendra donc l'idée, à savoir que le leader, c'est pas quelqu'un qui est un patron, c'est pas quelqu'un qui est là derrière pour dire ce qu'il faut ou ne pas faire, mais c'est davantage quelqu'un qui va influencer les autres. Se pose la question de savoir quelles sont les caractéristiques d'un bon leader, ou d'un leader tout court, sachant que chacune de ces caractéristiques, c'est toujours quelque chose que nous avons à développer. C'est jamais quelque chose qui est acquis une bonne fois pour toutes. Vous savez, vous allez vous dire, maintenant, c'est acquis, je l'ai. Non. Vous l'avez acquis, et en même temps, vous êtes en train de l'acquérir, et puis, parfois, vous le perdez aussi. Parce que la vie n'est pas linéaire. Parfois, on peut bien agir, et puis, à d'autres moments, on peut être un leader reconnu, et on peut ne pas manifester certaines de ses caractéristiques. Donc ce sont des choses qui sont toujours à travailler, qui sont valables pour les leaders, mais qui sont valables aussi pour chacun d'entre nous, puisque d'une certaine manière, nous exerçons tous une influence, que ce soit dans le domaine du travail, auprès des personnes que nous côtoyons, que ce soit dans notre famille, ou que ce soit dans l'Église. Nous avons tous une influence auprès d'autres personnes. Alors j'avais prévu de vous donner trois caractéristiques, je vais peut-être simplement, vu que le temps avance, m'en limiter à deux, et par conséquent, on va tout de suite passer à la deuxième qui devient pour vous la première. Hein, la première caractéristique que j'aimerais mentionner ici, ou alors peut-être je vous donne juste la première que je voulais souligner, mais je ne vais pas la développer, c'était le service, hein. C'était cette idée de service, c'est ce que Jésus dira, à savoir que voilà, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et Jésus dira aussi dans l'évangile de Marc au chapitre 10, alors que ses disciples sont en train de se prendre la tête pour savoir qui aura une bonne place auprès du Seigneur, hein, et alors que le Seigneur juste avant ça vient de parler de la croix, vient de parler de sujets importants, eux ils sont en train de se réfléchir dans le groupe qui aura une bonne position, quoi. Vous voyez, un petit peu, ça nous montre qu'ils sont totalement aux antipodes de la pensée que le Christ était en train de développer. Et Jésus leur dira dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, verset 42-45, « Vous savez ce qui se passe dans les nations, ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple, et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. » Et il dira ceci, « Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. » Ça, c'est la pensée qu'il faut retenir. Autrement dit, dans le royaume de Dieu, ça fonctionne pas comme ça. Dans le monde, c'est la course au titre. C'est la course à celui qui va être vu. C'est la course à celui qui va le mieux parler, à celui qui va essayer de manipuler les autres. Mais Jésus dit, dans le royaume de Dieu, ça fonctionne pas comme ça. Au contraire, dira-t-il, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Et Jésus se prendra en modèle et il peut le faire, car le Fils de l'homme, dira-t-il, n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc un leader, et je ne développerai pas cette pensée, c'est d'abord quelqu'un qui sert les autres. Et comme le dit Patrice Martorano, je vous laisserai simplement cette citation, « Dans le royaume de Dieu, le leadership est déterminé non pas par combien de personnes te servent, mais par combien de personnes que toi tu vas servir. » Donc ce n'est pas combien de personnes me servent, mais combien de personnes, moi, en tant que leader, je vais servir. Et c'est fort, parce que servir les autres, ça veut dire mouiller sa chemise. Servir les autres, vous le savez, les uns les autres, hein, qui sont engagés dans des postes à responsabilité, ça veut dire que vous prenez du temps, ça veut dire que vous vous investissez dans la vie d'autres personnes, sans savoir forcément comment ce que ça va produire, sans parfois qu'il y ait aussi la reconnaissance qui est là. Vous êtes prêt à vous investir dans les autres parce que vous croyez qu'il y a un potentiel dans la vie d'autres personnes. Et ça, c'est le leader chrétien. Il va servir au travers de ses dons. Et quelque part, faire ou exercer le ministère, c'est cela. Hein, souvent, nous parlons du ministère. Eh bien, le terme qui est utilisé dans la Bible pour parler du ministère, eh bien, c'est littéralement, ça signifie « service ». Donc exercer le ministère, quelle que soit la nature de ce ministère, que ce soit spirituel ou que ce soit pratique, c'est toujours pour servir les autres. Je sers les autres parce que je veux les bénir. Je veux leur donner le meilleur de moi-même. Je veux pouvoir les équiper. Je veux pouvoir qu'ils puissent rentrer pleinement dans leur appel. Et je me mets au service des personnes pour pouvoir leur permettre de rentrer dans ce que le Seigneur a prévu pour eux, que ce soit à l'école du dimanche, que ce soit avec des jeunes, que ce soit avec un tout petit public ou que ce soit avec un grand public. On s'en fout. L'essentiel, c'est d'être là et de pouvoir servir. Finalement, j'ai quand même donné mon premier point. Deuxième caractéristique du leader, ce sera l'humilité. Hein ? Le premier point, nous l'avons dit, c'est le service. Le deuxième, c'est l'humilité. De Moïse, qui est le grand leader de l'Ancien Testament, qui est vraiment la figure marquante, le médiateur de l'Ancienne Alliance, un personnage impressionnant dans le judaïsme et pour les chrétiens aussi, un monstre sacré, il nous est dit de lui en Nombre 12:3 qu'il était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Pouh ! Qu'est-ce que l'humilité ? Vous avez toutes sortes de définitions qui existent, hein, des définitions spirituelles, des définitions aussi psychologiques, des définitions philosophiques, enfin vous en avez des centaines. Je vous propose simplement de retenir cette définition, qui est la définition qui nous est proposée par rapport au terme qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de l'humilité. Être humble, c'est se placer sous l'autorité de Dieu. Voilà. Être humble, c'est là le sens du mot hébraïque, du terme hébraïque, c'est se placer sous l'autorité de Dieu. C'est être soumis à Dieu. Et on comprend pourquoi il nous est dit que Moïse était l'homme le plus humble du monde. Puisque s'il y a bien quelqu'un qui était placé sous l'autorité de Dieu, quelqu'un qui obéissait à Dieu, quelqu'un qui savait entendre la voix de Dieu, c'est Moïse. À tel point qu'il nous est dit que lorsqu'il rencontrait le Seigneur, son visage rayonnait parce qu'il avait une relation, une proximité avec Dieu qui était exceptionnelle, qui était particulière, qui n'était que de son fait. Et donc c'est ça être humble, c'est être soumis à Dieu de la même manière que le Christ aussi dans le Nouveau Testament était soumis parfaitement à son Père. Et c'est pour ça qu'il pourra dire qu'il est doux et humble de cœur. Alors concrètement, être humble, ça se manifeste comment ? Ou ça se traduira de quelle manière ? Parce que finalement ça c'est la définition, mais en pratique ça donne quoi ? Eh bien je vous propose trois pistes pratiques ou trois déclinaisons de l'humilité. L'humilité se manifeste d'abord par le fait de savoir se soumettre aux autres, par la soumission. Alors bien sûr, je l'ai dit, hein, d'abord par la soumission à Dieu, mais aussi par la soumission aux autres. En tout cas, c'est la pensée que Paul va laisser dans le Nouveau Testament lorsqu'il dira par exemple, Éphésiens 5, 21, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Alors quand on nous parlons de la soumission à Dieu, là généralement, nous sommes d'accord, il n'y a pas de difficulté. Hein. Le chrétien dira « je suis soumis à Dieu ». C'est facile d'être soumis à Dieu, personne ne le voit. Donc on peut lui faire dire, on peut penser ce qu'on veut. Ben oui, par contre, être soumis aux autres, c'est beaucoup plus difficile. Et dans le cadre de mon ministère, je rencontre parfois des chrétiens qui viennent me voir et qui me disent « Oh, mais moi, tu sais, ils ont des difficultés à être soumis, et en particulier être soumis aux autorités, parfois soumis aux leaders de leur église, où ils ont beaucoup de mal à accepter la soumission mutuelle. » Et parfois même, il y en a qui vont me dire « Mais moi, tu sais, hein, je suis peut-être pas soumis aux autres, mais moi, j'obéis à Dieu, quoi. » Quand quelqu'un me dit ça, moi, je tique, quoi. Parce que comment est-ce qu'on peut dire qu'on est soumis à Dieu si on n'est pas capable de se soumettre aux autres, sachant que les autorités que Dieu nous a données, que ce soit dans le monde séculier ou alors dans le domaine spirituel, c'est Dieu qui les a données, ou c'est nous qui les avons choisies. Donc par conséquent, nous décidons de nous soumettre à ces personnes-là de bon cœur, même si parfois ça ne va pas dans notre sens. Et être humble, c'est cela, c'est savoir se soumettre aux autres. C'est pour ça que le leader a besoin d'apprendre à travailler avec les autres, de rechercher le consensus, et pas forcément de vouloir imposer ses vues, et de voir un petit peu, et s'il n'est pas d'accord, eh bien il va quand même se soumettre au groupe. Moi, c'est un des postulats de base que j'ai, par exemple, dans mon ministère. Quand je vais dans une église qui m'invite, le postulat de base que j'ai depuis des années, que j'essaye d'appliquer, je dis bien j'essaye, parfois j'y arrive bien, d'autres fois moins bien, c'est de me dire que Je suis soumis à l'Église qui m'invite. Ça veut dire que si les leaders de l'Église me disent de ne pas aller dans cette direction, dans ce sens-là, alors bien sûr, s'ils me disent de ne pas prêcher l'Évangile, là, ça ne va pas marcher, hein. Là, je ne veux pas me soumettre. Mais quand il s'agit de choses secondaires, je vais les respecter. Je vais respecter, même si j'ai des vues qui sont différentes. Pourquoi ? Parce que je pars du présupposé que ce sont eux qui m'invitent, je suis par conséquent sous leur autorité spirituelle, même si j'exerce mon service, et par conséquent, pour le temps où je suis dans cette église ou dans ces églises, eh bien, je vais me soumettre à la discipline ou me soumettre à la pensée générale qui va être là pour exercer ce que j'ai à cœur de pouvoir transmettre. Et ça, c'est quelque chose d'important. Hein ? Et c'est pas toujours évident, mais pourtant, ça fait partie du leadership. Ensuite, l'humilité se manifeste aussi par le fait d'être enseignable. Et la question qu'on se posera en tant que chrétien, de manière générale, et puis aussi en tant que leader, en devenir, ou alors déjà bien présent, établi, c'est de savoir, est-ce que je suis quelqu'un qui est enseignable ? Est-ce que j'accepte qu'on me dise quelque chose ? Est-ce que je suis prêt à entendre que quelqu'un me dise quelque chose sur moi ? Que ce soit par rapport à moi personnellement, à ma prédication, à mon enseignement, à ma manière de gérer des entretiens ou mon ministère, est-ce que j'accepte que quelqu'un me dise quelque chose ? Autrement dit, est-ce que je suis enseignable ? Ça ne veut pas dire que je vais faire ce que les autres me disent ou voient chez moi, mais ça veut dire est-ce que je suis prêt à l'entendre, tout simplement. J'ai mon mentor qui dit souvent cette phrase, et c'est quelque chose qui m'a marqué profondément. Celui qui ne se laisse rien dire n'a rien à dire. Celui qui ne se laisse rien dire n'a rien à dire. Si on n'est pas capable de recevoir ou d'entendre quelque chose, il y a un problème. Parce que comment est-ce qu'on fait pour évoluer ? On ne peut évoluer qu'à partir du moment où les autres vont pouvoir nous donner un retour. Et on va pouvoir réfléchir sur soi-même pour corriger certaines choses. Donc, être enseignable, c'est vraiment un truc super important. Par exemple, nous, dans notre association, je vous parle un tout petit peu comment est-ce qu'on fonctionne, c'est très bref, mais nous, dans notre association, ce qu'on va regarder, c'est pas les diplômes. Si on a, par exemple, un évangéliste ou une évangéliste qui se propose, parce qu'on accepte aussi les femmes, eh bien, qui nous dit, voilà, moi, j'ai tel diplôme, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai prêché l'évangile à 10 000 ou 15 000 ou 20 000 personnes, ok, c'est bien, mais c'est pas ça qui va nous guider pour savoir si on va prendre quelqu'un et si on décide d'accompagner cette personne. Ce qui va nous guider, c'est de voir un petit peu quel est le caractère de cette personne. Et surtout le caractère, parce que le caractère, c'est ce qu'il y a de plus important. Le reste, on peut toujours l'acquérir. Enseigner, on peut acquérir. Prêcher, on peut acquérir. S'occuper d'une équipe, ce sont des outils qu'on peut acquérir. Tout ça, on peut l'acquérir. Par contre, le caractère, s'il n'est pas là, et que si vous devez travailler avec quelqu'un qui n'a pas travaillé sur son caractère, c'est galère, quoi. Eh bien, nous, ce qu'on va regarder, entre autres, c'est est-ce que la personne est enseignable ? Et si elle n'est pas enseignable, eh bien, les portes sont fermées immédiatement. Quels que soient les diplômes, quelles que soient les qualités, quel que soit même l'impact que cette personne a déjà dans le ministère. Parce que quelqu'un qui n'est pas enseignable, vous ne pouvez rien faire avec cette personne-là. Jusqu'à ce que, bien sûr, et Dieu fait toujours grâce et peut faire grâce, que cette personne se remette en question. Et puis, pour finir, l'humilité se manifeste aussi au travers de ce qu'on appelle la redevabilité. Alors, être redevable, c'est quoi ? Être redevable, eh bien, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est est-ce que je suis prêt à rendre des comptes à quelqu'un ? Ou alors, est-ce que je suis seul maître à bord ? Est-ce que c'est moi qui décide tout ? Quand j'ai commencé, un petit mot de témoignage personnel, quand j'ai commencé mon ministère, c'était dans les années 96, hein, que j'ai commencé d'abord dans une église locale. Et puis ensuite, dans mon association, très rapidement, un jour, le président de l'époque propose que quelqu'un, une personne qui était venue et qui s'occupait beaucoup de ces questions de leadership, me suive et m'accompagne dans mon ministère pour m'aider à le développer et aussi pour vivre une certaine forme de redevabilité. Et ce monsieur, qui s'appelait Jean-Marc, que je ne connaissais pas, habitait à une trentaine de kilomètres de chez moi, et moi, dans ma tête, à l'époque, en 96-97, je me suis dit, mais j'ai besoin de personne, quoi. Tu vois ? Impressionnant, l'orgueil, hein. C'est fou, quoi. Ça revient. Et c'était gros, là. Et je me suis dit, dans ma tête, je le vois une fois, et ensuite, je veux plus jamais le voir de ma vie, quoi. Moi, je sais exactement ce que je veux faire, le Seigneur me l'a montré, etc. Tu vois le machin ? Et puis finalement, je l'ai vu une fois. Et en le voyant une fois, j'ai très vite compris que j'avais besoin de lui. et nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Et en l'an 2000, lorsqu'il est parti pour aller aux États-Unis parce que son épouse était américaine, je me suis retrouvé tout seul et je pleure pas souvent, mais alors là, j'étais dans mon bureau, je m'en souviens, et je pleurais comme un gamin. Et je dis, Seigneur, je suis tout seul, je suis orphelin. J'ai plus personne pour m'accompagner. Comment est-ce que je vais faire? À qui est-ce que je vais être redevable? Et j'ai prié. Deux mois après, c'était au mois de juin ou juillet, ou un mois après, août 2000, je me retrouve à Amsterdam, une rencontre organisée pour tous les évangélistes du monde entier. Nous étions plus de 12 000 par l'association de Billy Graham, 9 jours intensifs de formation. Et là, alors que j'étais paumé parmi quelques autres Français et des gens qui venaient du monde entier, voilà que tout d'un coup, je croise la route d'Alain Stamp, que je connaissais, et on n'avait pas forcément accroché tous les deux ensemble, voire même pas du tout. Moi, je n'avais pas accroché avec Alain au départ. Et il me voit et il me demande s'il peut manger avec moi. Et il me dit, « Ah Manu !» Enfin, si vous connaissez Alain, vous savez, il est toujours en train de gesticuler. Il me dit, « Ah ouais, j'ai entendu parler de toi, j'aimerais bien t'accompagner. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on pourrait se voir ?» Et puis finalement, on s'est vu au mois de septembre. Et il est devenu mon mentor jusqu'à l'heure actuelle. Hein. Et je remercie le Seigneur d'avoir mis sur ma route. Alors bien sûr, Dieu a mis d'autres mentors sur ma route, c'est-à-dire des personnes qui vont vous accompagner, qui vont vous aider à libérer le meilleur qu'il y a en vous, des personnes aussi à qui vous êtes redevable, c'est-à-dire des personnes qui peuvent vous poser des questions embarrassantes sur votre vie personnelle, sur votre fonctionnement, sur votre famille, sur le temps que vous prenez pour les autres, etc. Mais finalement, ça a été très salutaire, parce que au travers de cela, j'ai pu et je peux continuer aujourd'hui d'avancer, de progresser. Donc, être redevable. Alors, la redevabilité peut se vivre à plusieurs niveaux. Elle peut se vivre avec un mentor, par exemple. Elle peut se vivre aussi dans le cadre d'une église, dans un groupe, par exemple. Quand un groupe fonctionne ensemble, on peut choisir de vivre la redevabilité. On peut choisir aussi jusqu'à quel niveau on va vivre la redevabilité, tout simplement. Et ça, ça permet aux leaders d'avancer, de grandir, de se développer et de libérer le potentiel que Dieu a déposé dans son cœur. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce sujet qui est passionnant. Je me résume simplement sur cette deuxième caractéristique, l'humilité, à savoir que l'humilité du leader se manifeste par sa soumission aux autres, par le fait d'être enseignable et aussi par la redevabilité. Et puis je termine courtement avec la troisième caractéristique que je vais simplement effleurer. Le leader, c'est quelqu'un qui voit aussi et surtout, notez ça, le potentiel chez les autres. C'est quelqu'un qui voit le potentiel chez les autres. C'est inhérent, je l'ai dit, à la définition de ce qu'on appelle le leader. Alors vous avez concrètement deux types de leaders. Vous avez ce qu'on appelle le leader de type pharaon, c'est-à-dire le pharaon, ben c'est, tu vois, c'est le chef, quoi. Ok, tu dis rien, quoi. Tu te tais, René, hein? Rien. Tu vois, là, c'est le leader de type pharaon. Et puis, il y a un deuxième. Donc, ça, c'est un certain type de leader, de leadership à la française, même si ça change, hein. Vous avez de plus en plus qui essayent de vivre le leadership de type serviteur. D'ailleurs, dans les années 70, il y a toute une école qui est venue dans le leadership qui a dit qu'il fallait être, si on veut que les entreprises se développent bien, il fallait être des leaders serviteurs. Et vous en avez certains qui ont intégré ce type de leadership. Et quand on regarde un petit peu les caractéristiques de comment est-ce qu'ils vivent les choses, eh bien, c'est exactement ce qu'on retrouve dans les évangiles. C'est très intéressant. Donc, le leader de type pharaon. Et puis après, vous avez le second modèle, c'est le leadership de Jésus qui choisit des personnes. Et puis ensuite, qui va les équiper, qui travaille à libérer le potentiel, à limer les aspérités, tout ce qui va pas, pour que les personnes puissent fonctionner, une fois qu'il est parti. Comme ça, quand le chef, entre guillemets, ou le leader principal est parti, les autres vont pouvoir fonctionner. On n'a pas besoin du leader principal, puisque les autres ont été équipés et sont capables de fonctionner. Alors moi j'aime bien l'exemple de Jésus, parce que Jésus n'a pas choisi les apôtres en fonction de leur diplôme, il les a pas choisis en fonction de leur notoriété, de leur succès. Jésus a vu ce que personne ne voyait. Moi je sais pas comment est-ce que les disciples étaient perçus par les chefs religieux de l'époque, mais j'imagine que certains d'entre eux étaient perçus comme des pécheurs, comme des personnes qui dysfonctionnaient. Ils étaient perçus comme des personnes ayant peu de possibilités d'évoluer dans leur vie, et pourtant ce sont des individus que le Seigneur a choisis. Et vous avez là probablement une des caractéristiques ou un des critères précieux chez un leader en position d'autorité, c'est de voir le potentiel, les dons, les possibilités chez les autres, alors que vous ne voyez rien. Moi, j'ai quelques personnes dans mon entourage qui ont ça, et notamment dans l'équipe avec laquelle je travaille à France Évangélisation. J'ai un de mes collègues et je l'admire et je l'envie pour cela aussi, et pour moi il est un exemple aussi. C'est quelqu'un qui voit le potentiel chez les autres alors que personne ne le voit. Vous savez, quand quelqu'un fonctionne et que vous voyez ses dons, c'est facile d'aller vers cette personne et de lui dire « Ah ben toi t'as un don pour ça, allez vas-y je t'encourage ». Mais quand vous avez quelqu'un qui arrive, qui n'est pas sûr de lui, hein, qui ne paye pas du tout de, qui paye pas quelqu'un qui ne fait pas de bruit, quelqu'un qui n'a pas la parole facile, quelqu'un qu'on ne voit pas, voilà, quelqu'un qui est presque transparent, il passe comme ça de manière très discrète, quelqu'un aussi qui n'est pas assuré intérieurement, quelqu'un qui ne se sent pas bien forcément au fond de lui, et que quelqu'un vient et il dit, lui là, je vois, il a le potentiel pour être pasteur, pour être ceci, pour être cela. Moi, je me rappelle, à plusieurs reprises, il nous a dit des choses comme ça. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais il déconne, le gars, quoi. N'importe quoi. Lui, là, ministère d'évangéliste, tu vois, dans ma tête, jamais de la vie, quoi. 2-3 ans après, eh ben, la personne, waouh. La personne a littéralement explosé, quoi. Eh bien, un petit peu à la manière d'un prophète, sauf que là, c'est pas prophétique, hein, ou je sais pas comment ça se passe, mais il réussit à voir le potentiel qu'il y a dans les autres, alors que ce potentiel n'est pas encore manifesté. Et que tous les indicateurs extérieurs, visibles, les critères humains que nous on va regarder, hein, eh bien, ne sont pas présents, ils sont pas là, parce que nous on aime bien regarder ceux qui se pavanent, ceux qui savent bien parler, ceux qui font ceci ou cela, mais ce faisant, on risque de passer à côté de plein de personnes qui ont un potentiel. Et ça, c'est quelque chose que nous sommes tous appelés, que moi je suis appelé aussi à développer, à travailler. Et je prie souvent pour que le Seigneur m'aide à discerner, à voir le potentiel quand je vais dans des endroits auprès de personnes et où je ne serai pas attiré naturellement, parce qu'on ne voit rien. Or, c'est ça, le leader, il réussit à voir cela et il va ensuite aider, équiper ces personnes, il va les pousser, il va prendre du temps aussi pour s'investir. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur aussi de permettre à ce que cette personne puisse avancer. À tel point que parfois la personne qu'il va pousser ou va mettre en avant va même devenir plus forte que lui. Ou aura davantage de leadership que les autres. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui manque dans les milieux chrétiens. Parce que souvent, on a peur, hein, et dans le domaine séculier aussi. On a peur un petit peu de perdre son leadership parce qu'on se dit, oh, ben celui-là ou celle-là, waouh, le potentiel qu'il ou elle a. Et si je le pousse ou si je la mets en avant, qu'est-ce qui se passe? Elle va me faire de l'ombre. Alors que c'est tout le contraire. Qu'est-ce qui se passe quand vous poussez quelqu'un? Si par exemple, je prends, il tombe, hein, René, aïe, 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 René. Aïe. Si je prends, par exemple, et que je pousse René, hein, on va prendre René, tiens, puisque tu m'as embêté, hein, et que je le pousse et que je le mets en avant, et que je lui dis, bah, regardez René, tous les dons, toutes les capacités qu'il a, qu'est-ce qui se passe? Moi, je le pousse, lui va être devant, mais moi, je suis derrière, vous comprenez? Et on va se dire, mais qui a encouragé René? Ben, vous êtes derrière, et donc René, tu peux aller t'asseoir, merci. Merci. Et donc, eh bien, on pousse la personne, et la personne qu'on va mettre devant, on la pousse, mais c'est vous qui l'avez poussée. Et vous êtes derrière, et par conséquent, lui, il va monter, ou elle va monter, mais vous aussi. Parce que c'est vous qui avez contribué à révéler le potentiel et à permettre à ce que ce potentiel se développe dans la vie de cette personne. Alors nous allons arrêter là. Simplement, c'est quelques pensées que je voulais partager avec vous ce matin. L'idée principale que nous retiendrons est très simple, à savoir qu'un leader, c'est pas un chef, c'est pas un patron. Alors vous pouvez avoir des patrons ou des chefs ou toutes sortes de titres qui sont aussi des leaders, mais c'est pas parce qu'on a le titre qu'on est forcément leader. Mais le leader, c'est vraiment celui qui a cette capacité d'influencer les autres. Et soyons chacun d'entre nous, regardons comment est-ce que nous pouvons devenir de meilleurs influenceurs. En plus, c'est un thème très à la mode, n'est-ce pas, sur certains réseaux sociaux. On parle d'influenceurs, mais regardons comment est-ce que nous pouvons être de meilleurs influenceurs en développant à la fois cet esprit de service, cette humilité qui caractérise notre maître et qui est aussi appelé à se caractériser dans notre vie, et comment est-ce que nous pouvons faire pour essayer de révéler le potentiel qui est là, présent dans la vie des autres. Et ça, nous pouvons le faire, que ce soit au travail, dans le domaine séculier, avec nos collaborateurs, que ce soit nous-mêmes, dans les sphères d'influence où nous évoluons. Hein. Et plus nous allons là-dedans, et plus le Seigneur va nous utiliser, et plus nous allons grandir. Voilà, Seigneur, nous te disons merci encore pour ce moment, ce matin. Nous voulons simplement te prier, Seigneur, et te dire aussi que... Voilà, nous ne sommes pas toujours, Seigneur, hein, au vu de ce que nous avons dit ce matin, des leaders qui vont pouvoir toujours, qui exercent ou qui sont toujours en capacité de pouvoir influencer les autres. Mais nous voulons te prier ce matin pour que tu nous aides, chacun d'entre nous, à révéler le meilleur qu'il y a, non seulement dans nos vies, mais à révéler le meilleur qu'il y a dans la vie des autres, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir vivre cela, déjà dans nos familles, avec nos enfants, avec notre conjoint, avec nos collaborateurs, en tant que frères et sœurs aussi dans l'Église. Et tu vois que c'est des fois difficile, Seigneur, surtout quand on vit des moments de tension, où on n'est pas d'accord. Seigneur, donne-nous vraiment de pouvoir, voilà, nous servir les uns les autres, nous aimer les uns les autres, manifester ces caractéristiques qui t'animent, qui t'animaient, pour pouvoir grandir, Seigneur, pour pouvoir bénir les autres. Seigneur, en ce jour, nous prions pour cela, nous prions pour que nous puissions être des leaders là où nous sommes, là où tu nous as appelés. Et puis que tu suscites aussi, Seigneur, dans notre assemblée, eh bien, celles et ceux que toi-même tu as choisis. Que tu nous donnes, Seigneur, de ne pas simplement regarder avec les yeux humains, mais aussi avec les yeux du cœur pour discerner ce qu'il y a de fort et de puissant, les appels que tu as placés dans la vie des uns et des autres. Amen. Amen.